Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, une ville pour tous avec un toit pour tous, est-ce une utopie? Comment faire pour que le droit de propriété, entre autres, ne devienne pas une rente? On va en discuter avec nos invités. Robin Rivaton, tout d'abord, entrepreneur et essayiste, ancien conseiller économique de Bruno Le Maire et de Valérie Pécresse, conseiller des entreprises aussi en matière immobilière, auteur de La ville pour tous aux éditions de l'Observatoire, où il constate à la fois l'engorgement et la cherté des villes et s'interroge, une métropolisation heureuse est-elle possible? Bonjour Robin Rivaton.
Bonjour.
À vos côtés, Emmanuel Dauquès, professeur de droit à Paris-Ouest Nanterre, auteur en 2017 d'un voyage en Misarchie, essai pour tout reconstruire aux éditions du Détour. Dans ce roman essai de politique fiction, l'auteur fait échouer son héros en terre inconnue dans une société hyper démocratique, une société où les combats n'ont pas pour ambition d'éviter le pire, mais de rendre le réel désirable. Bienvenue donc en Misarchie. Le régime qui déteste les chefs, la domination, le pouvoir, ce pays, c'est l'Arcanie, un pays de propriétaires, d'où votre présence avec nous. Bonjour Emmanuel Dauquès.
Bonjour.
Le 21e siècle, Robin Rivaton, est celui des villes. Pour beaucoup, cette métropolisation qui a succédé à l'urbanisation, elle pose un certain nombre de questions aujourd'hui aux essayistes, mais aussi elle devrait en poser à la puissance publique. C'est une dynamique pour vous qui n'est pas prête de s'arrêter.
Oui, je pense que le phénomène de métropolisation, que je définis comme à la fois la concentration des activités économiques, des opportunités de progression sociale et la constitution d'une culture commune à tous ces habitants de ces zones métropolitaines, est un phénomène relativement puissant, assez inéluctable. Le moteur en est la tertiarisation de l'économie. On est passé d'une économie industrielle où l'industrie allait plutôt rechercher un déploiement géographique dans sa recherche de nouvelles sources de main-d'œuvre, de nouvelles sources de matières premières, à une économie de services, notamment de services sa forte valeur ajoutée, ou ce qui guide la production de richesses et la rencontre, l'échange, le débat, le dialogue. Et tout cela, cette rencontre physique, elle ne sera pas remplacée par les échanges électroniques ou numériques. Au contraire, je pense que plus le numérique sera modifiable, sera suspect, comme on peut le voir aujourd'hui, avec beaucoup de fausses informations, de risques de travestissement de la vérité, plus on voudra se rencontrer en réel. Et donc, plus il y aura cette densité, cette concentration des activités économiques.
C'est la prospérité apparente des villes qui attire. Elle concentre les richesses et les facilités, services publics et privés en nombre, mobilité facilitée. Les métropoles sont aussi le terrain de jeu privilégié de la révolution technologique. Est-ce pour autant un avenir désirable tel qu'il se présente aujourd'hui que celui d'habiter une grande métropole?
Je pense que la métropolisation peut être un phénomène extrêmement formidable, puisque c'est grâce à cette concentration d'activités, de cerveaux, de rencontres, qu'on arrive à aussi faire des inventions comme des découvertes contre le cancer et ainsi de suite. Donc je pense qu'on est sur un phénomène qui peut être positif. La question aujourd'hui, c'est que face à cette demande, à cette volonté d'habiter dans des endroits toujours plus restreints, la production de logements notamment, parce que c'est cette question-là qui guide les choix d'habitat, est contrainte, elle est très limitée. On ne produit pas assez de logements pour accueillir cette demande qui est en pleine explosion. Et donc face à ça, on se retrouve avec un double phénomène d'exclusion. Une exclusion vis-à-vis des zones qui ne sont pas métropolitaines, des zones dites périphériques, telles qu'elles ont été définies depuis maintenant quelques années. Et puis pire encore, on a tout un ensemble de classes sociales populaires ou moyennes, qui sont parfois des moteurs indispensables, des rouages indispensables des services publics de la métropole, que ce soit par exemple des infirmières, des policiers, des enseignants, qui se retrouvent exclus de ces métropoles. Donc on a ce double phénomène d'exclusion, et donc aujourd'hui cette métropolisation qui pourrait être quelque chose d'extrêmement formidable, je ne veux pas la condamner per se comme on peut l'entendre parfois, elle est en train, à mon avis, d'échouer avec des exemples assez symboliques, comme une ville comme San Francisco, qui est sans doute la capitale mondiale de la technologie, aujourd'hui qui est devenue une ville absolument désagréable à vivre puisqu'elle exclut énormément de gens.
Dans un monde idéal, mais réaliste, Emmanuel Dauquès, vous mettez tout le monde, vous faites vivre tout le monde dans une ville, une grande ville.
Non, bien sûr. Les gens sont différents, vous savez, certains préfèrent vivre à la campagne, d'autres préfèrent vivre en ville, c'est une vieille histoire et il convient dans une société imaginaire ou réelle, dans tous les cas, d'avoir des habitats possibles à la campagne et en ville, dans des petites villes, dans des moyennes villes, dans des grandes villes. Je rejoins ce qui a été dit précédemment, la concentration dans certaines grandes métropoles n'est pas forcément un mal, notamment en termes de logement. mais aussi en termes de transport, en termes écologiques, le fait que beaucoup de personnes soient dans un petit endroit, vous savez, à Paris, certaines personnes préfèrent avoir 20 mètres carrés que d'avoir une maison beaucoup plus loin, mais qui demanderait beaucoup plus de transport, où ils auraient beaucoup plus de mètres carrés. C'est un choix possible, il faut que tous les différents choix soient possibles, et c'est toute l'idée de la mise archi, d'ailleurs de l'essai du livre qui reparaît en poche là récemment. C'est toute l'idée de la mise archi, de laisser les personnes faire comme elles l'entendent. Le problème, évidemment, c'est que nos sociétés ne permettent guère de faire toujours comme on l'entend, notamment parce qu'il y a cette question du coût du logement qui est terrible et qui fait que beaucoup de personnes sont contraintes d'habiter dans des lieux qui ne correspondent pas à leurs désirs.
Et que la réalité contrarie parfois les imaginaires. Hein. C'est le cas aussi de cette mobilité qu'on ne cesse de revendiquer. Le fait que dans les campagnes ou dans les villes périphériques, petites et moyennes, il est beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'habiter parce que les distances sont longues pour aller travailler, que les services publics deviennent de plus en plus rares. Il faut voir aussi comment la réalité va s'adapter à ces imaginaires et aux souhaits de chacun.
Hein. Alors la désertification de campagne, la création de vides de services publics ou de vides médicaux est une question grave, mais c'est aussi une question de choix. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'avoir une politique qui maintienne un service public partout. D'ailleurs, la terminologie service public, normalement, ce sont des biens qui peuvent être accessibles par tous. Et donc, si on maintient cette idée du service public, on doit pouvoir la maintenir sur l'ensemble du territoire.
Alors, Robert Rivaton a cherché dans son essai « La ville pour tous » les conditions d'une métropolisation heureuse. Et il était peut-être urgent de le faire en France, mais aussi ailleurs. En attendant, rapide aperçu avec le photographe Benny Lam de ce qui se joue et ce qui se passe à Hong Kong. Il est donc photographe, il a capté la situation désastreuse du logement dans cette grande métropole.
Mes photos parlent de la situation problématique du logement à Hong Kong. Les personnes qui vivent ici cuisinent et dorment dans cette petite pièce d'environ 4 mètres carrés. 200 000 personnes à Hong Kong se trouvent dans cette situation intenable. Et nous voudrions faire réagir la société et le gouvernement sur ce problème de logement. C'est un droit de l'homme.
À l'image d'Hong Kong, on peut commencer aussi à se poser la question un peu partout dans le monde, et notamment en France, de ce qui se joue autour et dans les métropoles. Vous comparez, Robin Rivaton, ces grandes villes d'aujourd'hui aux châteaux forts d'hier, dont il serait sage d'abaisser le pont-levis avant de les voir assiégés, attirant de plus en plus de monde. Les métropoles deviennent aussi de plus en plus étouffantes, voire excluantes, et la sélection s'opère par le prix de l'immobilier. Imaginez l'avenir de la ville au XXIe siècle, c'est un récit pour l'instant de l'ordre de la dystopie qu'il faut changer, il faut inventer un contre-récit.
Oui, il faut inventer un contre-récit qui existe aussi, puisque ces villes sont attirantes. Elles attirent quand même beaucoup de gens. Et mes propositions ne sont jamais des propositions qui visent à fermer les choix, ou en tout cas à restreindre l'éventail de choix des individus. Au contraire, c'est de permettre à chacun d'accéder à ces métropoles. Ceux qui ne veulent pas y accéder peuvent rester à l'extérieur ou en périphérie de ces lieux-là, évidemment. Le contre-récit, il s'incarne par une chose, c'est qu'aujourd'hui la sélection s'opère par les prix de l'immobilier. De manière très très simple, à chaque fois qu'on refuse de construire, à chaque fois qu'on refuse d'avoir une taxation réelle de l'utilisation de l'espace, de l'occupation foncière de cette ressource qui est extrêmement rare, qui est ce foncier urbain, qui au final est une ressource extrêmement dure à trouver, qu'on ne pourra pas faire grandir, et bien à chaque fois qu'on refuse de faire ces politiques publiques, on exclut quelqu'un, et c'est quelqu'un qui habite à 50, à 100, à 150 kilomètres plus loin de la métropole et qui se retrouve dans des situations de vie au quotidien extrêmement inconfortables, puisque il existe toujours des transports publics, il existe toujours des moyens de se déplacer, mais c'est des vies qui sont extrêmement dégradées et difficiles à vivre.
En Arcadie, Emmanuel Dokès, on a bien sûr réfléchi à supprimer le droit de propriété, les abolitionnistes estimant qu'il n'y aurait pas de libération tant que ce droit serait maintenu. Pourquoi a-t-il finalement été sauvegardé ? Est-ce qu'il existe une bonne propriété ?
Alors, tout à fait. Je voudrais dire que les villes, de toute façon, ne doivent pas être comprises comme quelque chose d'indépendant du reste de la société. Elles sont l'image de ce qui se passe dans la société. Et ce qu'on a vu dans le reportage de Hong Kong, c'était la très très grande misère d'une partie de la population, et donc ceci est indexé aussi au niveau d'inégalité d'un pays. Et donc on ne luttera pas efficacement contre ces effets-là sans lutter contre les inégalités aussi. Il faut lutter puissamment contre ces inégalités, et ça va aussi améliorer les villes profondément. Mais alors, pour revenir à votre question... Pour revenir à votre question, la propriété est quelque chose d'ambigu pour la raison suivante. Vous avez des propriétés qui servent de moyens de domination et des propriétés qui servent de moyens d'indépendance. Typiquement, si vous êtes propriétaire de votre logement, je trouve que c'est une très bonne chose. Si vous êtes propriétaire de votre logement, eh bien, personne ne peut vous embêter chez vous, et ça, c'est très très bien. Et il faut laisser les gens maîtriser leur habitat. Et d'ailleurs, si vous êtes propriétaire aussi de votre entreprise ou si vous êtes propriétaire des moyens de travail, eh bien, cette propriété-là protège votre autonomie. Toutes les propriétés qui protègent l'autonomie sont défendues dans le système que je préconise. Il faut défendre cette autonomie des personnes. En revanche, et ça c'est le problème, c'est que très souvent la propriété sert aussi de moyen de domination. Et donc toute l'idée, c'est que ces moyens de domination, c'est-à-dire je vous domine parce que je suis propriétaire du bien que vous utilisez, que ce soit un bien productif ou un logement, ou cette domination du propriétaire sur la personne qui use du bien et qui n'est pas propriétaire, cette domination-là doit être combattue comme toutes les dominations. Et dès lors, en mésarchie, si vous voulez, il y a cette propriété dominante qui est la propriété par laquelle qu'on domine, qui tend à être aboli, ce qui est... Alors après, comment est-ce qu'on arrive à maintenir la propriété d'autonomie et à abolir la propriété dominante? Ça suppose toute une série de techniques, de réflexions, de règles qui sont détaillées.
Robert Yvaton.
Oui, dans cette notion de propriété, la distinction que moi je souhaitais apporter dans ce livre-là, c'est celle de rente. C'est la rente, c'est le moment où la propriété, parce qu'elle a été accumulée à un moment où la métropolisation n'existait pas, dans les années 60, 70, 80, au moment où on fuyait les centres-villes, donc la valeur de ces biens-là en centre-ville avait considérablement chuté ou baissé, et aujourd'hui, sans qu'il y ait une justification derrière, sans qu'il y ait en fait un choix de risque, soit qu'il y ait une prise de risque ou un investissement qui a été mûrement réfléchi à l'époque, on se retrouve avec certains individus, certaines personnes qui ont accumulé des grands patrimoines immobiliers, parfois importants, parfois surdimensionnés par rapport à leurs usages. Encore une fois, j'ai dit que le foncier urbain était une ressource extrêmement rare. Aujourd'hui, être à deux dans un très grand appartement dans une très grande métropole mondiale, quand on a pu l'acquérir à un prix 7, 10 fois inférieur à ce qu'il est aujourd'hui, on est passé d'une notion de propriété à une notion de rente. Moi, je suis très en faveur de la propriété. Je ne crois pas du tout dans les thèses à la Rifkin qu'on va être dans un monde purement d'usage et que dans ce monde-là, on serait seulement locataire et que ces biens seraient possédés par d'autres. Je pense que ce sera un facteur très très aggravant des inégalités si on arrivait à cette finalité-là. Je pense qu'il faut qu'on ait une notion de propriété immobilière, mais je pense qu'on doit retrouver le sens de la propriété immobilière et non plus en faire une rente qui soit inaliénable, qui soit transmissible sans condition aux générations futures et ainsi de suite. Il faut redonner un sens et un cadre à une propriété limitée et qui puisse recirculer pour les nouvelles générations notamment, puisqu'on a parlé de la distinction sociale qui permet d'accéder à la métropole. La réalité est qu'il y a une distinction aussi de classe d'âge. Aujourd'hui, vous avez toutes les classes d'âge qui, sur 30 ans, ont baissé le taux de propriété, sont de moins en moins propriétaires, sauf une qui sont les plus de 65 ans, qui eux ont vu leur taux de propriété exploser sur la dernière génération.
Dans votre essai de politique fiction, Emmanuel Dockès, c'est aussi la propriété privée, quand elle est rente, que vous traquez. Et vous vous interrogez sur la manière d'empêcher cela. Vous repartez du même diagnostic, du même constat que Robin Rivaton, pour tenter de repenser un système de propriété qui ne tomberait pas dans ce travers-là.
Oui, tout à fait. Il s'agit donc de partir de ce constat que nous partageons pour essayer de voir ce qui peut être modifié du droit de propriété pour en enlever les principaux défauts. Alors, par exemple, vous avez parlé de l'héritage et de la transmission. Il me semble que pour l'essentiel, l'héritage doit pouvoir être supprimé. On laisserait des petits trucs, mais que pour l'essentiel, il doit être supprimé. Dès lors, les biens immobiliers retournent dans un fonds commun qui peut ensuite les revendre aux enchères. De ce fait-là, vous avez une propriété qui est ce que j'appelle fondante, c'est-à-dire une propriété qui perd de la valeur avec le temps. puisqu'en vieillissant, comme usufruitier en quelque sorte, vous avez la valeur de votre bien qui diminue puisqu'il est viagé. Et à partir du moment où cette valeur diminue, il faut qu'il y ait une chambre de compensation. C'est-à-dire que si vous achetez vieux, il faut que votre bien, vous l'achetiez finalement moins cher que si vous achetez jeune, puisque vous achetez pour une plus longue période de temps. Et ce fonds de compensation-là est tout à fait facile à imaginer si ce fonds est aussi le fonds qui récupère les biens à la fin de la vie des personnes. Comme il récupère les biens à la vie des personnes, il peut aussi jouer de chambre de compensation lorsqu'il y a un achat et une vente de biens, ce qui permet aussi, moyennant 2-3 autres systèmes, notamment une modification du système bancaire qui est indispensable, d'imaginer un monde dans lequel il n'y a que des propriétaires de leur logement. Alors il y a des systèmes d'hôtellerie, hein, pour, et on peut même louer sur une courte période son logement pour faire une prestation d'hôtellerie, pourquoi pas, évidemment. Une semaine, 15 jours, un mois, tout ça serait sympa, pourquoi pas de l'Airbnb ou que sais-je encore. Mais à la fin, le locataire long terme est une chose qui est finalement abolie en misarchie, de la même manière qu'on a essayé d'abolir les propriétés dominantes sous toutes leurs formes. De la même manière, une entreprise en misarchie, à terme, pas immédiatement, mais à terme, deviendra la propriété des personnes qui y travaillent.
Et pourtant, le Airbnb, vous avez cité un peu le gros mot, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce système de location d'appartements crée aussi des appartements vacants ou inoccupés qui sont loués pour des courtes périodes. Et ça complique singulièrement la vie des locataires ou des propriétaires dans des villes comme Barcelone, qui sont partis donc à la chasse à ce système de location.
En Espagne, de plus en plus de villes font la guerre à Airbnb, le fameux site de location qui est accusé de provoquer une flambée des prix.
Nous avons décidé d'interdire les locations Airbnb pour les touristes et ce, dans tous les appartements de la ville. On souhaite que le tourisme s'adapte à la ville et pas l'inverse.
Les revenus immobiliers rapportent beaucoup plus que les revenus liés au travail, ce qui nous rend chaque fois plus vulnérables et beaucoup moins productifs, moins compétitifs, et ça ne génère pas la création d'emplois de qualité. Ces 5 dernières années, quand nous sommes arrivés au gouvernement, les logements touristiques avaient augmenté de près de 20%. C'est un chiffre énorme qui rappelle celui de la bulle immobilière. Les touristes, comme les citoyens, sommes convaincus du fait que le tourisme est positif pour la ville de Barcelone, mais pour que cela reste positif, il faut y mettre de l'ordre pour qu'il s'inscrive dans une économie durable.
Robin Rivertour, mettre de l'ordre, c'est ça la priorité?
Oui, mais de l'ordre. Alors le phénomène Airbnb n'est pas que lié à cette entreprise, il est lié surtout à une massification du tourisme dans ces grandes métropoles. C'est-à-dire que ces grandes métropoles dont on parle de ce récit qui est à la fois dystopique à certains égards, notamment pour les gens qui y vivent, et en même temps, nous sommes de plus en plus nombreux, et quand je dis nous, c'est bien en nous incluant dedans, à vouloir et à pouvoir se rendre dans d'autres de ces métropoles, les visiter, se rendre compte qu'elles sont agréables, qu'elles ont un certain nombre d'aménités et de services à offrir. Et donc, ce qu'on appelle Airbnb, de son moteur profond, c'est quand même cette désirabilité des métropoles derrière. Le contrôler, le réguler, très bien. Mais la meilleure façon, encore une fois, de le contrôler et le réguler, c'est quand même de pouvoir adapter le mieux possible l'offre de logement à cette demande. Moi, je ne suis pas pour qu'on réduise ou qu'on freine la capacité des touristes à se rendre dans d'autres villes. Je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui est à la fois positif pour ces territoires et à la fois positif pour les gens qui ont l'occasion de s'y rendre. Je suis plutôt pour qu'on adapte encore une fois et qu'on fasse en sorte que, plutôt que de choisir les gens, quand l'offre de logement est restreinte, on choisit les gens qui peuvent y accéder. Un touriste, pour une nuit, deux nuits, trois nuits, a forcément une capacité de paiement ou en tout cas d'achat largement supérieure à celle d'un résident local. Et bien, je suis en faveur qu'on mettre plus de logements disponibles sur le marché.
La propriété n'est pas perpétuelle, elle n'est pas transmissible, on ne peut pas en hériter, nous dit Emmanuel Dauquès, cette propriété qu'il a imaginée, mais qu'il souhaite aussi réaliste pour son voyage en misarchie. Et c'est pour tout reconstruire. On a les deux pieds sur cette question de la ville et de l'immobilier. Du coup, est-ce que cette formule, Robin Rivaton, vous semble intéressante? Un droit de propriété idéal qui reposerait sur ces deux piliers, qui use, acquiert, et tout s'écoule.
Oui, alors je fais une proposition qui n'est pas si éloignée, puisqu'on part du même constat, donc c'est déjà une bonne chose. Ma proposition est plutôt liée à la taxation, elle revient à peu près au même, et c'est un système qu'on commence à voir émerger aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a un impôt foncier relativement élevé, qui peut être de 3, 4% de la valeur des biens, et qui fonctionne, ou en tout cas qui a pour base taxable la valeur nette des biens, c'est-à-dire la valeur d'acquisition, la valeur du bien, moins la dette qui est associée. Donc c'est un système qui a plutôt tendance à favoriser les nouveaux acquéreurs, ceux qui sont en train de payer le prix fort de cette montée des prix métropolitains. Et après, un système donc à 3 ou 4%, ça veut dire qu'au bout de 25, de 30 ans, on a repayé une seconde fois la propriété. Donc ça revient à dire que ce droit n'est pas immuable. Et pour éviter que la fixation d'une valeur, et même dans une chambre de compensation, est assez compliquée, parce que l'immobilier n'est pas une science parfaite. Chacun peut trouver un avantage particulier à tel logement, parce qu'il y a un attachement symbolique, parce que c'était l'endroit de sa famille, et que sais-je encore. Et on ne peut pas identifier seulement par le mètre carré, le métrage, la valeur d'un bien. Et donc ma proposition, c'est de dire que chacun, au moment de sa déclaration d'impôt, fait annuellement, fixe la valeur du bien, et lui donne sa valeur, une valeur de marché que lui-même déclare. Et pour éviter que la valeur soit minorée, puisque c'est le risque, c'est que quelqu'un veuille jouer avec la règle pour minorer la valeur de son bien, et bien la valeur qu'il déclare, ça fixe le droit de préemption des autorités publiques. Et donc, comme il existe, ce droit de préemption, il est aujourd'hui opérant dans toutes les villes au monde. Il y a très peu de villes où il n'existe pas. Et donc, quelqu'un qui veut jouer avec le feu, fixer une valeur de bien très bas pour minorer la valeur de son bien et ne pas payer d'imposition dessus, il s'oppose au risque, il s'expose pardon au risque que les autorités publiques préemptent son bien, comme ça existe déjà aujourd'hui. Et donc, on a un système relativement fonctionnel qui fait qu'on a une taxe foncière qui remplace tous les autres impôts. Qui remplace tous les autres impôts et qui permettent donc tous les autres impôts immobiliers, j'entends, sinon ça va pas aller très loin, et qui permettent grâce à cela de favoriser la recirculation du patrimoine immobilier qui aujourd'hui est très largement figé.
Et oui, vous avez un essayiste entrepreneur qui a plus d'imagination que vous, Emmanuel Dokes, que Robin Rivaton vient d'envisager, on pourrait le retrouver dans le code supplétif arcanien.
Alors là on est dans la question de l'impôt, c'est une question qui est intéressante, c'est donner un coût à la propriété, c'est-à-dire vous êtes propriétaire, donc vous payez. C'est une façon, donc plus vous êtes propriétaire, plus vous payez, c'est un impôt sur le patrimoine finalement. Impôt sur le patrimoine en faveur duquel je suis. Moi je pense qu'il faut imposer les patrimoines, évidemment pas seulement les patrimoines immobiliers des personnes qui sont propriétaires de leurs biens. Il faut réfléchir à une imposition du patrimoine pour éviter les inégalités de patrimoine de se propager et qui sont extrêmement lourdes. Donc là on a l'invention de quelque chose qui existe, en fait c'est l'impôt sur le patrimoine qui conviendrait, donc qui est sur un taux qui est fixe. Il pourrait aussi qu'on imagine un taux qui serait progressif et qui permettrait évidemment de résister à la concentration naturelle des patrimoines, qui est un des grands fléaux de nos sociétés et qui existe cette fois-ci en Arcanie. Il y a des impôts sur le patrimoine en général pour éviter l'accumulation de patrimoine.
Mais pourquoi pas rendre la propriété collective ? Ça résoudrait cette question de l'accumulation des richesses et qu'implique souvent la propriété individuelle à un moment, et des inégalités.
Oui, alors quand on aime la liberté, on craint quand même la collectivisation. Et à titre tout à fait personnel, j'aime beaucoup la liberté, j'aime beaucoup l'égalité. Il faut combattre pour limiter les inégalités. Mais attention de ne jamais être dans une espèce de simplification qui viendrait porter atteinte à la liberté au nom de l'égalité. Ça serait une catastrophe, on l'a déjà tenté, on ne veut plus refaire ce genre de bêtises. Et la liberté individuelle est mieux protégée lorsque les outils qui sont utiles à mon indépendance sont ma propriété personnelle, et donc qu'on ne peut pas venir empiéter sur ma liberté personnelle, puisque je suis propriétaire de mes moyens de production, je suis propriétaire de mon logement, je suis propriétaire finalement de ce qui permet d'avoir une autonomie économique. Et ça, c'est bien préférable à une collectivité dont on doit toujours se méfier, qui serait propriétaire des moyens de ma liberté.
Robin Rivaton, ça va mieux en le disant. Il faut quand même l'évoquer que dans la ville pour tous, vous plaidez-vous pour une intervention du politique. Le logement serait une affaire trop sérieuse pour être laissée aux seules mains du marché. Et contre toute attente, vous, l'essayiste libéral, vous plaidez donc pour confisquer, construire, contrôler. Comment vous en êtes arrivé à cette règle de trois ?
Deux réponses. La première, c'est cette question de rente dont on parle depuis tout à l'heure. Et tout bon auteur libéral est contre la rente. Donc ça, c'est une question qui, je veux dire, est très très proche du libéralisme. Et le deuxième point, c'est la ressource rare. Tout auteur libéral, quand il sait quand il a une ressource rare face à lui, il faut absolument la réglementer et faire en sorte qu'on puisse travailler dessus et que les pouvoirs publics interviennent dessus. Donc ma proposition n'est pas du tout d'exclure le marché des acteurs privés. Au contraire, je pense qu'ils ont un rôle fondamental à jouer, que ce soit les promoteurs, que ce soit les foncières. Tout le monde a un rôle fondamental dans ce marché, mais avec des règles refondées. Et ces règles refondées visent à limiter la rente, prendre aux rentiers pour donner aux plus modestes. Et je pense que c'est un programme qui n'est ni de droite, ni de gauche, ni libéral, ni interventionniste. C'est chasser la rente et faire en sorte que cette ressource qui est rare puisse, à un moment ou à un autre, passer par un contrôle public. Je propose par exemple que...
Juste un mot, pardon, parce que vous parliez de la suppression des autres impôts tout à l'heure, celle, la suppression de la taxe d'habitation, c'était une des promesses du candidat Macron, et elle est revenue à l'ordre du jour dans la bouche de Gérard Darmanin, le ministre des Comptes Publics, début avril. Cette suppression, elle pourrait intervenir d'ici 2022. Ça, c'est une mesure... intéressante, égalitaire ?
Pas tellement, puisque aujourd'hui, cette mesure de taxe d'habitation, la mesure qui est la plus pénalisante aujourd'hui, c'est les droits de mutation à titre obligatoire, ce qu'on appelle les fameux frais de notaire, qui viennent grever les transactions de 7% à peu près du montant des transactions, ce qui fait que beaucoup de gens qui sont dans des zones, on va dire, périphériques, qui constatent de jour en jour l'amoindrissement ou la perte de valeur de leur patrimoine immobilier, ne vont pas les vendre, parce qu'en plus vient se surajouter ces 7% de frais de notaire qui vient complètement pénaliser la vente. Donc il aurait mieux valu attaquer ce morceau-là que vraiment la taxe d'habitation. Ma proposition, c'est de rassembler tous ces impôts pour en faire un impôt unique sur le patrimoine et pour recréer de l'égalité. Aujourd'hui, vous avez dans des zones périphériques, des villes moyennes, des taux d'imposition sur la taxe foncière de 1-2% par an sur la valeur des biens. Aujourd'hui, à Paris, vous êtes à 0,2%. Donc on voit bien qu'il y a un besoin de recréer de l'égalité et cet impôt sur le patrimoine le permettrait.
Une société du tous propriétaire est-elle souhaitable? Cette France de propriétaires que Nicolas Sarkozy appelait déjà de ses voeux il y a une dizaine d'années et qui était aussi pointée du doigt par des associations comme la Fondation Abbé Pierre qui voyait un piège pour les ménages modestes avec un risque d'endettement trop important. Est-ce qu'on la remet au goût du jour? Comment on règle aussi, Emmanuel Dockès, cette question de l'emprunt, de l'endettement dans votre hyper-démocratie imaginaire?
Bon, il faut, quand on essaie de faire des réformes un peu d'ampleur, il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de faire des réformes qui touchent un peu à tout. C'est-à-dire que si vous touchez un petit bout de la société sans toucher au reste, vous ne pouvez pas aller très loin, ça sera toujours des petites mesures. Et typiquement, une société qui serait simplement une société de propriétaires dans les conditions qui sont actuellement celles du prix de l'immobilier et celles de l'emprunt, ne peut qu'être une forme très inquiétante d'appauvrissement des plus pauvres en réalité. Donc c'est assez inquiétant. En revanche, évidemment, quand on a la possibilité de penser l'évolution d'un système global, vous pensez aussi l'évolution du système bancaire, ce qui permet d'avoir des prêts donc avec un qui sont à taux zéro et qui sont sur de très longues distances, d'avoir des assurances de revente du bien à la valeur d'achat, assurances qui sont aussi gérées éventuellement par l'État, le tout étant financé par le retour de l'héritage dans les biens communs. Vous pouvez avoir des impôts très lourds qui permettent de limiter les inégalités et donc la rente dont parlait mon voisin. Vous pouvez avoir toute une série de mesures qui produisent une société plus égalitaire. Et lorsque vous êtes dans une société plus égalitaire, la difficulté que vous venez de mentionner, par définition, est une difficulté qui n'est pas disparue, mais qui est très fortement amoindrie. Et à ce moment-là, vous pouvez penser beaucoup plus sereinement l'autonomie des personnes sans générer une menace sur les personnes. Typiquement, si vous avez un système bancaire public qui assure des prêts à taux zéro sur 30 ans ou 40 ans, ça vous permet d'acheter pour moins cher qu'un loyer des biens, d'autant plus que si ces biens ne sont pas transmissibles, leur valeur a perdu un peu, et donc vous pouvez acheter aussi pour moins cher, puisque la valeur a diminué. Donc vous achetez pour moins cher avec des prêts plus longs, avec des taux d'intérêt plus bas, à la fin, c'est tout à fait accessible, y compris pour les revenus les plus modestes, dans une société plus égalitaire.
Alors vous le juriste, vous l'entrepreneur, Emmanuel Dockès, Robin Rivaton, on arrive presque à vous mettre d'accord autour de cette table sur cette discussion, mais comment faire pour arriver à un vrai consensus national sur ce point-là, un contrat social, comme vous le dites, Robin Rivaton, comment mettre tout le monde d'accord?
C'est extrêmement compliqué puisqu'il y a longtemps eu... Alors, il y a un double phénomène. Il y a d'une part un phénomène de fatalisme face à ces prix de l'immobilier qui sont croissants, en se disant, bah, c'est ainsi. Et donc, il y a un très, très grand fatalisme qui me surprend beaucoup. C'est-à-dire qu'on l'accepte.
Il y a un peu de quoi. C'est-à-dire que là, en plus, la bulle grossit, on a l'impression que jamais elle n'éclate.
Elle n'éclatera. Et donc, ça, c'est vraiment ce côté fataliste avec des dépêches qui, tous les 6 mois, viennent nous annoncer qu'on a franchi les 9 000, les 10 000, peut-être demain les 11 000 ou les 12 000 euros du prix du mètre carré à Paris. Le deuxième point, c'est qu'il y a le sentiment, en tout cas la conviction, qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait une croissance des prix de l'immobilier de manière régulière, que ça maintient une sorte d'ordre social ou de stabilité économique. La réalité est que non. En 93, l'Île-de-France a perdu 25% des prix de l'immobilier. Le pays ne s'est pas effondré, les banques ont tenu. Et donc on voit bien qu'il y a une partie de cette valeur-là qui est quand même une valeur qui est fictive. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, pour faire accepter ce consensus, il est important de faire passer le message que cette métropolisation est inéluctable, qu'elle est quelque chose qui peut être positif et qu'il faut absolument permettre à ceux qui en sont exclus de revenir dans le jeu de la métropolisation. Et cette politique du logement doit être la pierre angulaire de l'État qui a fait beaucoup d'erreurs là-dessus. On parlait du tous propriétaires dans les années 60, 70, 80 avec le développement du mouvement pavillonnaire avec sous des ministères tels que celui de Chalandon. On a eu quand même eu un encouragement à la propriété privée immobilière dans des endroits qui étaient des endroits qui aujourd'hui ne valent plus rien, parce qu'il n'y a plus d'activité économique, il n'y a plus d'école, d'emploi là-bas. Donc c'est important de pouvoir aussi requalifier ça.
Reste que les métropoles ont vampirisé aussi les campagnes, les petites et moyennes villes, les ressources, le lien social, l'offre culturelle. Alors comment imaginer un monde meilleur si on ne pense pas en parallèle la redistribution des richesses vers les autres territoires? Et puis, vous dites, cette métropolisation est inéluctable, mais et si les villes disparaissaient? La ville, c'est pas une affaire gagnée, ce que nous disait le géographe Thierry Pacaud.
Historiquement, la ville, et j'aime bien cette formule de l'historien Fernand Braudel, il dit « la ville est un heureux accident de l'histoire ». Ça veut dire qu'il laisse entendre qu'il pourrait y avoir une histoire de l'humanité sans ville. Alors la question intéressante, c'est de savoir si la ville continue à exister. Et je pense qu'elle est largement en difficulté, et qu'elle est même en voie de disparition, et que l'urbanisation dominant à l'échelle planétaire se fait sans ville, et même contre les villes. On a des mégalopoles, donc une espèce de gigantisme qui empêche l'esprit des villes de s'exprimer. On a des gated communities, des enclaves résidentielles fermées, qui font pas ville, évidemment, puisqu'elles sont sélectives, ségrégatives, etc. Et puis on a des gratte-ciels, qui sont des impasses en hauteur, et qui empêchent justement cette déambulation dans la ville labyrinthique qui me plaît tant à moi, hein, simple terrien. Donc la ville n'est pas une affaire gagnée. Aujourd'hui, elle doit se rébeller contre ces modèles qui sont très très puissants, qui sont mis en avant partout. C'est même l'idéologie dominante des Nations Unies, hein, c'est faites plus gros, faites plus grand, faites plus démesuré, comme si c'était illimité. Or, je pense que la ville, passé un certain seuil, devient contre-productive par rapport à ses propres finalités.
Trop grande, trop gourmande, Emmanuel Dockès, la fin de la ville, on peut l'imaginer.
Oui, il l'a très bien dit, c'est une question de goût. Lui, il aime bien les petites villes dans lesquelles il peut déambuler dans des labyrinthes. Bon, bah, très bien, tant mieux pour lui.
Quelle est l'utopie souhaitable ou raisonnable pour vous aujourd'hui, Emmanuel Dockès?
Alors, l'utopie souhaitable et raisonnable, c'est l'effondrement du coût du patrimoine. Aujourd'hui, le coût du patrimoine est démesuré comparativement aux revenus. Il faut des quantités de revenus sur des siècles pour acquérir des patrimoines de base, ce qui est absolument inacceptable.
Et ça en ville ou ailleurs, hein.
Oui, en ville ou ailleurs. Et en matière immobilière, en matière de logement ou en matière d'entreprise, qui sont survalorisées dans des bulles boursières absolument catastrophiques. Donc il faut effondrer ces bulles, toutes ces bulles, pour que tout devienne acquérable. Et une fois que c'est acquérable, il faut faire en sorte que les personnes qui utilisent les biens puissent les acquérir. Ça vaut aussi pour les travailleurs qui doivent pouvoir devenir les propriétaires de leurs entreprises. C'est aussi une condition fondamentale de la liberté, parce que on habite, ça c'est très
important. C'est-à-dire freiner la spéculation aussi.
Hein. On travaille aussi. Et il faut évidemment que ces spéculations soient brisées. Ce qui est important de noter, c'est que ces choses-là sont très facile à penser et qu'elles ne sont absolument pas exécutées, parce que il y a une espèce de lobbying très puissant des personnes qui sont les détenteurs de ces patrimoines qui empêchent cela pour l'instant. Et c'est pour ça que nos luttes actuelles sont fortes et qu'il y a une telle tension dans notre pays.
C'est d'où la question que je vous posais tout à l'heure du contrat social, comment mettre tout le monde d'accord et comment faire reculer ceux qui ne veulent pas avancer sur cette question. Romain Rivaton, l'utopie réaliste et raisonnable pour vous aujourd'hui?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de fin de la ville. Au contraire, si on fait du Fernand Braudel, justement, on remarque que l'espèce humaine est concentrée sur des territoires extrêmement petits depuis des centaines de milliers d'années. Donc, il y a une sagesse quand même d'avoir choisi ces lieux de peuplement. On ne va pas les réinventer. Et donc, il y a plutôt un phénomène de concentration dans ces espaces-là. Et encore une fois, cela peut être extrêmement positif à condition de rendre ces endroits accessibles. On peut être propriétaire en ville moyenne aujourd'hui. Beaucoup de gens le sont. Mais c'est pas là que se créent les opportunités de progression sociale. Et si les gens sont passés dans les villes, c'était d'abord et avant tout pour pouvoir mieux que leurs enfants vivent mieux qu'eux.
Merci beaucoup Robin Rivaton, La ville pour tous. Votre nouvel essai vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Un grand merci à vous Emmanuel Dauquès. Voyage en misarchie, essai pour tout reconstruire, sorti en 2017 aux éditions du Détour, vient de reparaître aux éditions Poche. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse, très précieuse de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Anna Holweck avec Anthony Thomasson. Très bel après-midi sur France Culture.